Chapitre 17. Fides spes. Le duc de Rosen entra le premier. « C'est un peu humide, dit-il gravement. Ça n'a pas été ouvert depuis la mort de mon fils. » Il tombait en effet une grande fraîcheur et comme une moisissure de caveau sépulcral dans ce splendide rez-de-chaussée en enfilade où les guzlas s'étaient si fièrement accordés, où tout gardait la même place que la nuit du bal. Les deux chaises sculptées du roi et de la reine, contre la tribune des musiciens, présidaient encore, dépassées par de magnifiques pupitres en fer forgé. Des fauteuils en cercle formaient des apartés aristocratiques. Des rubans, des débris de fleurs, de la gaze fanée et légère, vraie poussière de danse, jonchaient les parquets. On sentait que les décorateurs avaient détaché vivement les tentures, les guirlandes de feuillage et s'étaient hâtés de refermer portes et fenêtres sur ces salons qui parlaient de fête dans une maison en deuil. Le même abandon se voyait à travers le jardin encombré de feuilles mortes sur lequel l'hiver avait passé, puis un printemps sans culture, riche en folles herbes envahissantes. Par une de ces bizarreries de la douleur qui veut qu'autour d'elle tout souffre et se stérilise, le duc n'avait pas permis qu'on y touchât, pas plus qu'il ne consentait à habiter son magnifique appartement. Depuis l'affaire de Gravosin, comme Colette, très souffrante des suites de ses couches, était allée se remettre à Nice avec son petit W, il avait renoncé à ses retours solitaires au quai d'Anjou et se faisait dresser un lit dans l'intendance. Évidemment, il vendrait l'hôtel un jour ou l'autre et commençait à se défaire des somptueuses anticailles qui l'encombraient. C'est pour cela que les glaces de Venise, endormies en reflétant les couples amoureux des mazourques hongroises, l'étincellement des prunelles et des lustres, miraient aujourd'hui, dans la lumière grise et froide d'un ciel parisien, les silhouettes falotes, les yeux de lucre, les lèvres allumées du père Lemans et du sieur Pichery, son acolyte, tout blême, avec ses accroche-cœurs, ses moustaches raides de cosmétique. Vraiment, il fallait l'habitude du brocanteur, sa pratique du marchandage et de ses comédies qui mettaient en jeu toutes les grimaces du masque humain, pour que le bonhomme ne laissât pas échapper un cri de joie, d'admiration, quand le domestique du général, aussi vieux, aussi droit que son maître, eut ouvert et fait claquer bruyamment sur les murailles du côté nord les persiennes hautes d'un étage et que l'on vit miroiter discrètement, se nuancer dans leur ton superbe de bois, de bronze et d'ivoire, tous les précieux trésors d'une collection qui n'était pas étiquetée et soignée comme celle de Madame de Spalato, mais d'un luxe plus abondant, plus barbare et plus neuf, et sans un déchet, sans une panne. Le vieux Rosen n'avait pas pillé au hasard, à la façon de ces généraux qui passent dans un palais d'été comme une trombe, en portant avec la même fougue des toits à clochetons et des fétus de paille. Rien que des merveilles de choix. Et c'était curieux de voir les arrêts du brocanteur, le museau tendu sous ses poils, braquant sa loupe, grattant légèrement les émaux, faisant sonner les bronzes, d'un air indifférent, méprisant même, tandis que des pieds à la tête, du bout des ongles à la pointe de sa barbe plate, tout son corps vibrait, pétillait, comme si on l'avait mis en communication avec une pile électrique. Le Pichery n'était pas moins amusant à observer. N'ayant aucune notion d'art, aucun goût personnel, il modelait ses impressions sur celles de son compère, montrait la même moue dédaigneuse, vite tournée en stupéfaction, quand Lemans lui disait tout bas, penché sur le carnet où il ne cessait de prendre des notes, « Ça vaut 100 000 francs comme un sou !» Il y avait là, pour tous deux, une occasion unique de se rattraper du grand coup où il s'était fait si supérieurement rouler. Mais il fallait bien se tenir, car l'ancien général des Pandours, aussi méfiant et impénétrable que toute la brocante ensemble, les suivait pas à pas, se plantait derrière eux, sans être dupe une fois de leur mine. On arriva ainsi au bout des salons de réception, à une petite pièce exhaussée de deux marches, délicieusement ornée dans le goût mauresque, de divans très bas, de tapis, de cabinets authentiques. « Cela en est-il aussi ?» demanda Lemans. Le général hésita imperceptiblement avant de répondre. C'était l'abri de Colette dans l'immense hôtel, son boudoir de prédilection, où elle se réfugiait en ses rares loisirs, écrivait sa correspondance. La pensée lui vint de sauver ce petit mobilier oriental qu'elle aimait. mais il ne s'y arrêta pas, il fallait vendre. « Ça en est aussi, » dit-il froidement. Les Mans, tout de suite attirés par la rareté d'un meuble arabe, sculpté, doré, avec des arcades et des galeries en miniature, se mit à examiner les tiroirs multiples, à secret, s'ouvrant les uns dans les autres par des ressorts cachés, des tiroirs fins et frais, exhalant l'orangé et le santal de leur doublure satinée. En plongeant la main dans l'un d'eux, il sentit un froissement. « Il y a des papiers, » fit-il. L'inventaire fini, les deux brocanteurs reconduits jusqu'à la porte, le duc songea à ses papiers oubliés dans le petit meuble. Tout un paquet de lettres serrées d'un ruban froissé, imprégné des parfums discrets du tiroir. Machinalement, il regarda, reconnut l'écriture, cette grosse écriture de Christian, fantasque, irrégulière, qui depuis plusieurs mois ne lui parlait que d'argent par la voix des billets et des traites. Sans doute, des lettres du roi à Herbert. Mais non, Colette, mon cher cœur. D'un geste brusque, il fit sauter le cordon, éparpilla la liasse sur un divan, une trentaine de billets, rendez-vous donné, remerciements, actions de grâce, toute la correspondance adultère dans sa triste banalité, terminée par des excuses pour des rencontres manquées, par des missives de plus en plus froides, comme les derniers papillons à la queue d'un cerf-volant. Dans presque toutes, il était question d'un assommant et persécutant personnage que Christian appelait par blague « courtisan du malheur » ou simplement « c'est du malheur » et sur lequel le duc cherchait à mettre un nom quand, à la suite d'une de ses pages ricaneuses, toujours plus libertine que sentimentale, il vit sa propre charge, sa toute petite tête pointue sur de longues pattes d'échassier. C'était lui, ses rides, son bec d'aigle, son regard clignotant. Et, au-dessous, pour ne laisser aucun doute, courtisan du malheur montant la garde au Quai d'Orsay. La première surprise passée, l'outrage compris dans toute sa bassesse, le vieux fit « Oh !» et resta là, terrassé, honteux. Que son fils eût été trompé, ce n'est pas ce qui l'étonnait. Mais par ce Christian, auquel ils avaient tout sacrifié, pour qui mourait Herbert à 28 ans, pour qui lui-même était en train de se ruiner, de vendre jusqu'à ses trophées de victoire, afin que la signature royale ne fût pas protestée, ah, s'il avait pu se venger, décrocher de ses panoplies deux armes, n'importe lesquelles. Mais c'était le roi. On ne demande pas raison au roi. Et subitement, la magie du mot sacré apaisant sa colère, il en venait à se dire qu'après tout, Monseigneur, en jouant avec une de ses servantes, n'avait pas été aussi coupable que lui, duc de Rosen, mais alliant son fils à cette sauvadon. Il portait la peine de sa cupidité. Toutes ces réflexions ne durèrent pas une minute. Les lettres sous clé, il sortit, retourna prendre son poste à Saint-Mandé devant le bureau de l'intendance où l'attendait une foule de notes, de paperasses, parmi lesquelles il reconnut plus d'une fois la grosse écriture bègue des billets d'amour. Et Christian n'aurait pu le croire informé de la moindre chose lorsqu'en passant dans la cour, les jours suivants, il aperçut derrière le vitrage, toujours aussi droite, dévouée et vigilante, la longue silhouette du courtisan du malheur. Il n'y a que les rois, avec ceux qui s'attachent à leurs personnes de traditions nationales et superstitieuses, pour pouvoir inspirer des dévouements pareils, même quand ils en sont complètement indignes. Celui-ci, maintenant que l'enfant était hors de danger, faisait la fête de plus belle. Il avait d'abord essayé de revenir à Sephora. Oui, même après avoir été brutalement et cyniquement chassé, après avoir eu la preuve, toutes les preuves de sa trahison, il aimait encore assez pour accourir à ses pieds au moindre signe. La belle, à ce moment, était toute à la joie d'une lune de miel renouvelée. Guérie de ses ambitions, retombée dans sa nature tranquille, d'où l'appât des millions l'avait fait sortir, elle aurait voulu vendre son hôtel, tout réaliser et vivre à Courbevoie avec J. Tom, en bons négociants enrichis, écraser les Spritchs de leur confort. J. Tom Lévis, au contraire, rêvait de tenter de nouveaux coups, et le milieu grandiose où sa femme se trouvait installée lui donnait peu à peu l'idée d'une autre agence, dans une forme plus luxueuse, plus mondaine, le trafic ganté jusqu'au coude, traitant les affaires parmi les fleurs et la musique d'une fête, autour du lac, le long de la piste, et remplaçant le cap Vieux-Jeu, le cap numéroté maintenant à la compagnie des petites voitures, par une solide calèche à livrée avec la devise de la comtesse. Il n'eut pas de peine à convaincre Séphora, chez laquelle il vint définitivement habiter, et les salons de l'avenue de Messine s'allumèrent pour une série de dîners et de bals dont les invitations furent lancées au nom du comte et de la comtesse de Spalato. C'était un peu clair au commencement. Puis l'élément féminin, d'abord rebelle, finit par traiter J. Tom et sa femme comme ces riches ménages étrangers venus de très loin et dont le luxe sauve l'exotisme. Toute la jeune gomme se pressa autour de Séphora, mise à la mode par ses aventures, et M. le comte, dès le premier hiver, eut quelques belles affaires en train. On ne pouvait refuser à Christian l'entrée de ses salons qui lui avaient coûté si cher. D'abord, ce titre de roi illustré garantissait la maison. Il y vint donc lâchement, avec le vague espoir d'arriver de nouveau au cœur de la comtesse, non plus par le grand perron, mais par les petites entrées de l'escalier de service. Après s'être complu quelque temps dans ce rôle de dupe ou de victime, s'être montré tous les 8 jours, aussi blanc de linge que de visage, dans une embrasure dorée où le surveillait, le clouait, les yeux vibrants de Tom Lévis, il se découragea, ne revint plus, courut les filles pour s'étourdir. Comme tous les hommes à la recherche d'un type une fois perdu, il s'égara partout, descendit bas, très bas, guidé par ce Lebeau, habitué du vice parisien, qui, souvent au matin, apportait la valise de son maître en d'étranges bouges. Une vraie dégringolade, plus facile de jour en jour à cette âme molle de voluptueux, et dont son triste et calme intérieur n'était pas fait pour le détourner. On s'amusait si peu rue Herbillon, maintenant qu'il n'y avait plus là ni Méraud ni la princesse, Léopold V se remettant lentement, confié pour les travaux de la convalescence à Madame Éléonore de Sylvis, qui pouvait enfin appliquer les préceptes de l'abbé Diguet sur les 6 façons de connaître les hommes et les 7 d'écarter les flatteurs. Triste leçon, gênée par le pendeau inclinant de côté la tête du petit patient, et que la reine présidait comme autrefois, avec un regard navré vers la clématis dalmatica, la petite fleur d'exil en train de s'étioler contre la vitre. Depuis quelque temps, les franciscains s'étaient remis en quête d'un précepteur. Mais on ne retrouve pas facilement un Élisée Méraud dans la jeunesse moderne. Le père Alphée, lui, avait son idée là-dessus, qu'il se gardait bien de donner, car la reine ne permettait pas qu'on prononçât le nom de l'ancien gouverneur devant elle. Une fois pourtant, dans une circonstance grave, le moine osa parler de son ami. « Madame, Élisée Méraud va mourir, » dit-il en sortant de table, après les grâces. Tout le temps de son séjour à Saint-Mandé, par une sorte de superstition, comme on conserve en haut d'une armoire un vêtement démodé de sa jeunesse qu'on ne remettra jamais plus, Méraud avait gardé sa chambre de la rue Monsieur le Prince. Il n'y venait pas, laissait l'oubli s'entasser sur les papiers, sur les livres, et le mystère de ce réduit silencieux est toujours fermé dans la vie bruyante de l'hôtel Garni. Un jour il arriva, vieilli, fatigué, les cheveux presque blancs. La grosse hôtesse, réveillée de sa torpeur en entendant chercher parmi les clés pendues à leurs clous, avait peine à reconnaître son pensionnaire. « Quelle noce avez-vous donc faite, mon pauvre monsieur Méraud, si c'est permis de s'abîmer le tempérament comme ça ?»« C'est vrai que je suis un peu vanné, » dit Élisée en souriant, et il montait ses 5 étages, le dos rond, écrasé. La chambre était toujours la même, avec le mélancolique horizon de ses vitres ternes, des toits des cours carrés monastiques, l'école de médecine, l'amphithéâtre, monument froid, dégageant la tristesse de leur destination, et sur la droite, vers la rue Racine, les 2 grandes prises d'eau de la ville, luisant dans le réservoir de pierre, mirant le ciel blafard et les cheminées fumeuses. Rien n'était changé, mais lui n'avait plus ces belles ardeurs de la jeunesse qui colorent et réchauffent tout autour d'elle, s'exaltent même des difficultés et des tristesses. Il essaya de s'attabler, de lire, secoua la poussière des travaux inachevés. Entre ses pensées et la page glissait le regard de reproche de la reine, et il lui semblait que son élève, assise à l'autre bout de la table, attendait sa leçon et l'écoutait. il se sentit trop navré, trop seul, descendit remettre précipitamment sa clé au clou. Et dès lors, on le revit, comme autrefois, avec sa grande taille déhanchée, son chapeau en arrière, un paquet de livres et de revues sous le bras, errer par le quartier, sous les galeries de l'Odéon, au quai Voltaire, penché sur l'odeur des imprimés neufs et les cases grossières de la littérature au rebut, lisant dans la rue, dans les allées du Luxembourg, ou gesticulant, appuyé à quelques statues du jardin par un froid terrible, en face du bassin gelé. Dans ce milieu d'études et de jeunesse intelligente, que les démolisseurs n'ont pu atteindre ni tout à fait chasser, il retrouvait sa verve et sa fougue. Seulement, ce n'étaient plus les mêmes auditeurs, car le flot d'étudiants change et se renouvelle en ce quartier de passage. Les réunions s'étaient déplacées aussi, les cafés politiques, désertés pour ces brasseries dont le service est fait par des filles en costume, suissesses, italiennes, suédoises, aux pimpants oripeaux que drapent quelques dessinateurs en vogue. Des anciens rivaux d'Élysée, des beaux orateurs de son temps et du Pesquidou du Voltaire et du Larmina du Procope, il ne restait plus qu'un vague souvenir dans la mémoire des garçons comme d'acteurs disparus de la rampe. Quelques-uns étaient montés très haut, au pouvoir, dans la vie publique, et parfois, quand Élisée s'en allait, lisant le long des boutiques, les cheveux au vent, d'une voiture qui le dépassait, quelque illustre de la chambre du Sénat l'appelait « Méraud, Méraud !» On causait. « Que fais-tu? Travailles-tu » Méraud, le front plissé, parlait vaguement d'une grande entreprise qui n'avait pas marché. Pas un mot de plus. On voulait le tirer de là, utiliser cette force perdue. Mais il restait fidèle à ses idées monarchiques, à sa haine contre la Révolution. Il ne demandait rien, n'avait besoin de personne. Presque tout l'argent de sa place lui restant encore, il ne cherchait pas même de leçons, s'enfermait dans une douleur dédaigneuse, trop grande, trop profonde pour être comprise, sans autre distraction que quelques visites au couvent des franciscains, non seulement pour avoir des nouvelles de Saint-Mandé, mais parce qu'il aimait cette chapelle bizarre, son caveau de Jérusalem, au Jésus sanglant et colorié. Cette mythologie naïve, ces représentations presque païennes, ravissaient le chrétien des premiers siècles. « Les philosophes mettent Dieu trop haut, disait-il quelquefois, on ne le voit plus. » Lui le voyait dans la nuit de la crypte et parmi toutes ces images au supplice barbare, à côté de la marguerite d'Ossuna, châtiant le marbre de ses épaules, il se figurait cette vision d'un soir de Noël, la reine d'Illyrie les bras tendus, implorants et protégeants à la fois, refermés sur son fils, les mains jointes, devant la crèche. Une nuit, Élisée fut réveillée en sursaut par la sensation singulière d'une chaleur qui lui montait de la poitrine, lentement, comme une crue, et sans douleur, sans secousse, avec l'impression de l'anéantissement final, lui remplissait la bouche d'une fadeur rouge. C'était mystérieux et sinistre, le mal arrivant à la façon d'un assassin qui ouvre les portes sans bruit dans l'ombre. Il ne s'effraya pas, consulta des carabins de sa table d'hôte. On lui dit qu'il était très atteint. « Qu'est-ce que j'ai ?»« Tout !» Il était à ses 40 ans climatériques de la Bohême, où l'infirmité s'embusque, guette l'homme, lui fait payer cher les excès ou les privations de sa jeunesse, âge terrible, surtout quand le ressort moral est brisé, que la volonté de vivre n'existe plus. Élisée mena sa même existence, toujours dehors à la pluie, au vent, passant des salles surchauffées, embrasées de gaz, au froid de la rue en plein hiver, continuant, quand tout s'éteignait, à discourir au bord du trottoir, marchant la moitié des nuits. Les hémoptysies devinrent plus fréquentes, d'effroyables lassitudes les suivaient. Pour ne pas s'aliter, car la mélancolie déserte de sa chambre lui pesait, il s'installait au Rialto, une brasserie à côté de l'hôtel, lisait ses journaux, rêvait dans un coin. L'endroit était tranquille jusqu'au soir, gai de son mobilier de chêne clair, de ses murs barbouillés de fresques et représentant Venise, des ponts, des coupoles en trompe-l'œil sur un liquide arc-en-ciel. Les Vénitiennes elles-mêmes, le soir si allumées, faisant voltiger leurs aumônières de cuir entre les bancs, mirant dans des chopes leurs colliers rouges, dormaient, la tête sur la table, froissant les toits de dentelle et les manches bouffantes de batiste, ou bien travaillait autour du poêle à un ouvrage de couture qu'elle quittait pour venir boire en face de quelque étudiant. Une d'elles, grande forte fille, avait une épaisse chevelure fauve torsadée, des gestes graves et lents, suspendus par moments sur la broderie pour écouter. Celle-là, Méraud la regardait pendant des heures, jusqu'à ce qu'elle parlât et qu'une voix éraillée et vulgaire fit prendre la fuite à son rêve. Mais bientôt les forces lui manquèrent, même pour ses stations derrière un rideau de brasserie qu'il faisait glisser sur sa tringle. Il ne put plus descendre, fut obligé de rester au lit, entouré de livres, de journaux, laissant sa porte entr'ouverte pour que la vie, le grouillement de l'hôtel vînt jusqu'à lui. Surtout, défense de parler. Alors le méridional se résigna à écrire, reprit son livre, son fameux livre sur la monarchie, le continua avec fièvre et d'une main tremblante, secouée par la toux qui éparpillait les pages sur le lit. Maintenant, il ne craignait plus qu'une chose, mourir avant la fin, s'en aller comme il avait vécu, latent, inconnu, inexprimé. Sauvadon, l'oncle de Bercy, dont la grosse vanité turbulente souffrait de voir son maître dans ce galetas, venait le visiter souvent. Sitôt après la catastrophe, il était accouru, la bourse ouverte, cherchait comme autrefois des idées sur les choses. « Mon oncle, je n'en ai plus !» avait répondu Méraud découragé. Et pour le tirer de son apathie, l'oncle parlait de l'envoyer dans le Midi, à Nice, partager la somptueuse installation de Colette et de son petit W. « Il ne m'en coûterait pas davantage, disait-il naïvement, et cela vous guérirait. » Mais Élisée ne tenait pas à guérir, voulant terminer son livre à la place même où il avait germé, dans ces profondes rumeurs parisiennes où chacun entend la dominante qui lui convient. Pendant qu'il écrivait, Sauvadon, assis au pied du lit, rabâché de sa jolie nièce, s'irritait contre ce vieux toqué de général en train de vendre son hôtel de l'île Saint-Louis. « Je vous demande un peu ce qu'il peut faire de tout cet argent. Il doit l'entasser dans des trous en petits tas. Après tout, ça le regarde. Colette est assez riche pour se passer de lui. » Et le marchand de vin tapait, à l'endroit du gousset, sur son petit ventre tendu comme une sacoche. Une autre fois, en jetant sur le lit le paquet de journaux qu'il apportait à Élisée, « Il paraît qu'on se remue en Illyrie. Ils viennent d'envoyer à la diète de Leibar une majorité royaliste. Ah, s'il y avait un homme là !» Mais le petit Léopold est encore bien jeune et Christian s'abrutit de jour en jour. Maintenant, il court les bouges, les bastringues, avec son valet de chambre. Élisée l'écoutait, frissonnant de tout son corps. « Pauvre reine !» L'autre continua, sans s'apercevoir du mal qu'il faisait. « Ils vont bien, d'ailleurs, nos exilés. Voilà le prince d'Axel compromis dans cette sale affaire de l'avenue d'Antin. Vous savez, ce familier hôtel qui, avec son étiquette patriarcale, servait de refuge à des mineurs émancipés. Quel scandale! Un prince héritier! Pourtant, une chose m'étonne. Au moment même de l'histoire du familier, Colette m'écrivait que Monseigneur était à Nice et qu'elle avait assisté aux régates dans un yacht loué pour elle par Son Altesse. Certainement, il doit y avoir confusion. J'en serais fort heureux, car entre nous, mon cher Méraud... » Ici, le bonhomme confia très mystérieusement à son ami que le prince royal se montrait très assidu auprès de Colette. Et comme elle n'était pas femme à âme, vous pensez bien, il pourrait se faire qu'avant peu... La large face ouvrière du parvenu s'éclaira d'un sourire. Voyez-vous cela, Colette, reine de Finlande, et Sauvadon de Bercy, son oncle, devenant l'oncle du roi, mais je vous fatigue. Oui, « j'ai envie de dormir, » dit Élisée qui, depuis un moment, fermait les yeux, un moyen poli de se débarrasser de ce bon bavard vaniteux. L'oncle partit, il ramassa ses papiers, s'installa pour écrire, mais sans pouvoir tracer une ligne, pris d'un dégoût, d'une lassitude extrême. Toutes ces hideuses histoires l'avaient écœuré. Devant les pages éparses sur son lit, se plaidoyait pour la royauté où il brûlait le peu qui lui restait de sang, se voyant lui-même dans cette chambre sordide, avec ses cheveux gris de vieil étudiant. Tant de passions perdues, de forces gaspillées, il douta pour la première fois, se demanda s'il n'avait pas été dupe toute sa vie. un défenseur, un apôtre, à ces rois qui se dégradaient par plaisir, désertaient leur propre cause. Et tandis que ses yeux erraient tristement sur ces murs nus, où le couchant ne lui arrivait que par reflet des vitres d'en face, il aperçut dans son cadre poudreux de vieilles reliques le cachet rouge, fille d'espèce, qu'il avait prise au chevet de son père. Tout de suite, la belle face bourbonneuse du vieux Mérot lui apparut, telle qu'il la vit rigide au lit de mort, endormie dans sa confiance et sa fidélité sublime, et les métiers arrêtés et droits, l'horizon des moulins croulant entre la pierre sèche de la côte et l'implacable bleu du midi. Ce fut d'une minute d'hallucination, l'enclos de Reille, toute sa jeunesse, flottant dans une mémoire qui s'embrumait déjà. Tout à coup, la porte s'entrouvre avec un chuchotement d'étoffes et de voix. Il pense que c'est une voisine, quelque bonne fille du Rialto, qui apporte à boire à sa fièvre. Bien vite, il ferme les yeux. Toujours ce sommeil qui renvoie les importuns. Mais des petits pas indécis s'approchent sur le carreau froid de la chambre. Une voix douce murmure « Bonjour, monsieur Élisée !» Son élève est devant lui, craintif, un peu grandi, regardant avec sa timidité d'infirme le maître changé, si pâle dans ce pauvre lit. Là-bas, contre la porte, une femme attend, droite et fière, sous son voile. Elle est venue, elle a monté les 5 étages, l'escalier plein d'un bruit de débauche, frôlé de sa robe immaculée, les portes aux écriteaux raccrocheurs. Alice Clémence. Elle n'a pas voulu qu'il meure sans revoir son petit Zara. Et n'entrant pas elle-même, elle lui envoie son pardon par la petite main de l'enfant. Cette main, Élisée Mérot la prend, la serre sur ses lèvres. Puis, tournée vers l'auguste apparition qu'il devine à son seuil, avec son dernier souffle, son dernier effort de vie, de parole, il dit tout bas et pour jamais « Vive le roi !»